La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, philosophie de la nature, qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que le corps ? Nous avions parlé lors de la première séance il y a 3 semaines de l'hylémorphisme aristotélicien et je voudrais revenir sur cette notion. Hulé, morphé, matière et forme unies dans une intrication, on va dire, qui ne les sépare pas. Cet hylémorphisme maritain y est très sensible. Vous savez peut-être que de 1906 à 1908, il est parti à Heidelberg étudier la biologie auprès de Hans Driesch, un chercheur savant allemand qui travaillait sur les embryons d'oursins et qui, avec ses observations, est revenu à la notion d'entéléchie aristotélicienne. L'entéléchie, pour le dire en simple, c'est la notion de finalité, un principe vital qui permet une finalité. Alors c'est un grand pan de la science qui s'ouvre à travers cette notion, l'école vitaliste marquée par Barthès à Montpellier est relayée ensuite au XIXe siècle. Voilà, c'est un grand débat, mais tout ça pour dire que Maritain est un scientifique. Il est un biologiste, il a étudié la biologie en parallèle à la philosophie, et lorsqu'il est converti au christianisme, pour rappel, il reçoit le baptême le 11 juin 1906 à Montmartre. Et après son baptême, il se dit « je ne peux pas continuer à faire de la philosophie ». Il est agrégé en 1905 et donc il est compétent dans tout ce que l'institution exige d'un agrégatif ou d'un agrégé. Et il se dit « je ne peux pas continuer ». Donc il va s'orienter vers son autre discipline qui est la biologie. Et c'est en 1908 qu'il va découvrir la Somme de saint Thomas d'Aquin. Et c'est là qu'il va se dire « mais j'ai trouvé ma vocation, je vais être l'apôtre des temps modernes. Malheur à moi si je ne thomistise pas ». Donc il a trouvé sa vocation, c'est la défense de l'intelligence, d'intelligence telle que saint Thomas d'Aquin la conçoit. Et Maritain va devenir finalement l'apôtre des temps modernes. Mais attention, je vais rappeler donc à travers un petit livre qui s'appelle « De Bergson à saint Thomas d'Aquin », comment il conçoit la philosophie. N'oublions pas qu'il a été fasciné par Bergson. Pendant l'hiver 1902, Charles Péguy conduit Raïssa et Jacques Maritain au Collège de France et Bergson, à ce moment-là, fait son cours sur Plotin. Plotin, néoplatonicien, mais mystique, avec une vision de l'un qui va subsumer, on va dire, tous les transcendentaux. Pour rappel, les transcendentaux communiquent entre eux, ce sont des valeurs justement qui transcendent le réel. Citons-les, le beau, le bien, l'un, l'être, le bon. Et l'un pour Plotin, est le transcendantal ultime. Et on va de manière scalaire, par progression, vers l'un, et on y retourne. Donc c'est quelque chose qui a fasciné les jeunes Maritains, Raïssa et Jacques, et Péguy bien sûr, parce que Bergson apportait un éros philosophique, métaphysique, comme dit Maritain, c'est-à-dire on sortait de la mesure, on sortait du positivisme, du comptisme, toutes ces philosophies du XIXe siècle qui étaient étouffantes. Et on sortait aussi de l'historicisme qui envahissait la Sorbonne et contre lequel Péguy vituperait. Du coup, je crois que Bergson a été vraiment l'apport d'un souffle nouveau, ça va rester un ami pour Maritain, mais en 1913, Maritain va entrer en scène philosophiquement avec une œuvre qui est le bergsonisme, une œuvre majeure de 600 pages, qui se détache de son maître, justement parce que saint Thomas d'Aquin est passé entre-temps. Et c'est une façon d'introduire finalement la philosophie thomiste en critiquant Bergson. Et pourquoi Bergson est-il si intéressant? Parce que justement, par rapport à la mesure, Bergson va se détacher de l'intelligence qui mesure. l'intelligence qu'il mesure pour Bergson est très réduite et elle empêche d'accéder au vrai réel. Ce qui va permettre d'accéder au vrai réel, c'est l'intuition. L'intuition bergsonienne est finalement conçue contre l'intelligence parce qu'elle a accès directement au cœur des choses, ce que ne fait pas l'intelligence qui s'arrête à la mesure. Vous comprenez bien que après avoir lu saint Thomas d'Aquin, il est impensable de séparer intuition et intelligence. Pourquoi ? Parce que l'intelligence a l'intuition de l'être. L'intelligence est faite pour l'être, pour cet être en tant qu'être, et elle est faite par le mode intuitif. C'est par une intelligence, une intuition. Du coup, on ne peut pas séparer intuition et intelligence, penser l'une contre l'autre. C'est, si on pense l'une contre l'autre, c'est parce qu'on a réduit l'intelligence à ce qui est quantifiable. Il faut avoir une vision plus large de l'intelligence, et c'est ce que va proposer Maritain dans son Thomistisé, hein, son retour à cette injonction, « Je serai l'apôtre des temps modernes ». Et je vais vous lire donc un extrait qui va nous situer dans le débat sur la philosophie de la nature, un extrait de notre œuvre de Maritain, intitulée « De Bergson à Thomas d'Aquin », et qui revient sur cette œuvre de 1913, sur cette critique du bergsonisme. Donc, pourquoi saint Thomas d'Aquin peut-il être considéré comme un apôtre des temps modernes, dont Maritain va être le relais ? C'est parce que Thomas d'Aquin est le saint de l'intelligence. Il ramène toute chose à la lumière du Verbe, à cette lumière qui est à la fois la lumière qui éclaire rationnellement tout homme venant dans ce monde et la lumière qui éclaire surnaturellement tout homme régénéré dans la foi. Toute la philosophie et toute la théologie de saint Thomas sont construites dans l'illumination de la parole reçue par Moïse « Je suis celui qui suis ». Donc nous sommes bien dans une philosophie de l'être. Sa philosophie est une philosophie non pas des essences, mais de l'existence. Elle vit des intuitions naturelles, de l'expérience sensible et de l'intelligence. Sa théologie vit de la foi, c'est une théologie de l'incompréhensible acte d'exister qui subsiste par soi-même et qui n'est comme aucune des choses qui sont et dont nous ne pouvons connaître l'intimité que par sa propre parole. Rapide commentaire, « Je suis celui qui suis », c'est la définition que Yahvé donne à Moïse depuis le buisson ardent, hein, Exode 3. Et c'est cette philosophie, cette parole qui permet à saint Thomas et à Maritain de fonder la philosophie réaliste sur une philosophie d'existence, d'acte d'exister, puisque Dieu qui est parfait, son essence est d'exister. Il est un acte pur d'exister. C'est important de rappeler ceci parce que la philosophie de la nature, elle est finalement un point commun qu'on peut avoir un chrétien avec un non-chrétien, puisque de manière naturelle, l'intelligence peut accéder à cette philosophie de la nature qui va être déjà abordée dans les degrés du savoir. Hein, Maritain va faire une petite parenthèse et va essayer de comprendre pourquoi la philosophie de la nature est un retour à Aristote et à son hylémorphisme ou à la façon de voir de la manière finaliste, donc les entéléchies, dans la nature. Je vous propose de nous arrêter sur le texte des degrés du savoir après quelques pages de Poulenc dans les improvisations. Thank you. La philosophie de la nature permet à Maritain de continuer à relier les sciences expérimentales et la philosophie. Pourquoi ? Nous l'avons vu tout à l'heure, ou la semaine précédente, dans la difficulté de constance des sciences positives, parce qu'elles vont changer leur manière d'expliquer en fonction de leurs recherches. Et du coup, le critère, c'est que ce soit cohérent. Maritain prend une image, c'est celle de l'âme et du corps, et il dit « Je comparerai volontiers le rapport de la philosophie de la nature avec les sciences de la nature au rapport de l'âme raisonnable avec le corps. » C'est-à-dire que l'âme va être du côté de ce qui est permanent et le corps du changeant. Et ce qui est changeant, ce sont finalement les théories de la physique qui vont changer selon les besoins. En soi, la première, donc la philosophie de la nature, poursuit Maritain, est indépendante de l'état de développement des secondes et de leurs hypothèses. Elle repose sur des faits philosophiques beaucoup plus simples et plus fondamentaux que les faits scientifiques. Cependant, à insister trop exclusivement sur cette indépendance, comme le philosophe s'y pourrait sentir enclin, on risquerait de perdre de vue l'union intime et substantielle qui doit régner entre ces deux parties de la connaissance du monde sensible, à savoir philosophie de la nature et des sciences de la nature. Pendant trois siècles, où la fascination de la métaphysique mécaniciste s'est imposée aux sciences de la nature, l'authentique philosophie de la nature s'est trouvée comme une âme désincarnée. Elle s'est purifiée ainsi de bien des scories. Aujourd'hui, elle reprend contact avec la science expérimentale. Ce contact est naturel et nécessaire. Si les faits philosophiques sur lesquels se fonde la philosophie de la nature, par exemple, il y a de réelles diversités spécifiques dans le monde des corps, il y a des mutations substantielles, les organismes vivants sont doués d'une activité qui revient de soi sur soi, etc. Si ces faits philosophiques peuvent être établis à partir de l'observation commune, philosophiquement critiquée, il convient cependant qu'à mesure que se développent les sciences positives, ils soient mis en lumière aussi à partir des faits scientifiques eux-mêmes, pour autant qu'on peut dégager ceci des théories. À eux seuls, les faits scientifiques sont incapables d'apporter la moindre décision philosophique, mais la lumière propre des objets et des principes philosophiques, telle la lumière de l'intellect agent illuminant les fantasmes, fait jaillir d'eux le contenu philosophique dont ils étaient prégnants. Vous le voyez, le souci de Maritain est de souder les disciplines. Il les a distinguées pour les unir. Et si on laisse les sciences s'emparer du réel et d'un réel vu à travers la quantification et le mesurable, la critique bergsonienne peut revenir à tout moment, le danger d'un corps qui va se référer simplement à la mesure pour se dire corps est là. J'ai donné des exemples récemment avec par exemple la norme d'une nuit qui doit être bonne en fonction des courbes que va me proposer la machine selon une étude qui a été faite sur un grand nombre, on va dire. Eh bien, le danger est là. Maritain veut préserver cette philosophie simple qui va permettre de souder toujours les sciences au réel. Et son modèle va être Aristote. La doctrine illémorphiste, par exemple, est aussi vraie aujourd'hui qu'au temps d'Aristote. C'est son vocabulaire et ses exemples qui ont vieilli, non sa substance. Les quatre éléments d'autrefois, eau, terre, feu, air, sont remplacés par les 92 éléments répondant à une notion scientifique fort différente de la table de Mendeleïev. Nous avons de cette famille des éléments, une connaissance beaucoup plus rigoureuse que les chimistes d'il y a 100 ans. Nous tenons pour vraisemblable qu'ils dérivent tous de l'atome d'hydrogène par une série de changements que le philosophe doit regarder comme des mutations substantielles. Les phénomènes de radioactivité nous fournissent de tels changements de nature dans le monde des corps. Non pas sans doute une vérification scientifique pure et simple, mais un indice ou un signe empiriologique remarquable que le philosophe peut avec prudence dégager comme tel. L'existence d'une microstructure de la matière est un fait définitivement acquis, qui laisse ouverte la question proprement ontologique de l'essence de la matière. Si la science renouvelle incessamment ses conceptions concernant l'organisation spatio-temporelle et les propriétés de l'atome, c'est en affirmant pour autant l'existence du complexe primitif qu'elle nomme ainsi. Et à vrai dire, cet ensemble de connaissances empériologiques se prête mieux à l'ontologie d'Aristote qu'à celle de Démocrite ou de Descartes. Et j'ajoute qu'elle s'y prête sans doute mieux que les conceptions expérimentales en faveur chez les alchimistes du Moyen-Âge. On le voit, la philosophie de la nature cherche aussi à défendre une autre idée. L'idée qu'il y a des principes, on va dire, déterminants et des paramètres conditionnants. Si l'hylémorphisme d'Aristote est toujours valable, alors qu'il n'y avait que quatre éléments répertoriés au temps d'Aristote, comparé à Mendeleïev, ces quatre éléments font figure de misère. Mais en fait, ce qui est un paramètre conditionnant, c'est-à-dire l'évolution de la science, la richesse, l'enrichissement des mesures, etc., ne peut pas mettre en cause la réalité et la permanence du paramètre déterminant, c'est-à-dire ce que la philosophie a mis en place. Je prends un autre exemple. J'ai parlé dans une émission précédente du problème du reproche que l'on fait à l'homme occidental d'être trop centré sur lui-même et d'imposer sa loi. Et c'est allé jusqu'à remettre en question les droits de l'homme. En fait, cette problématique repose sur quelque chose de très simple qu'on peut appeler l'incommunicabilité des cultures. Les cultures sont incommunicables. Je suis né chinois, je ne peux rien comprendre à la culture indienne, je ne peux rien comprendre à la culture africaine, je ne peux rien comprendre à la culture européenne parce que je suis né dans un autre espace du globe. En fait, cette incommunicabilité des cultures confond le paramètre déterminant et le paramètre conditionnant. Le paramètre conditionnant, c'est que je suis né à telle date, dans tel pays, dans tel espace-temps. Mais j'ai en commun, avec tous les hommes de la planète, d'être un homme. Et qu'est-ce qui va permettre d'édicter des lois communes à tous les hommes? C'est tout simplement un credo de l'intelligence commune, qui fait partie de l'intelligence commune, et qui relève du paramètre déterminant. Et cette intelligence, poussée dans son en aboutissement conceptuel et donc dans sa faculté abstractive, il se trouve que c'est dans la sphère occidentale qu'elle a été poussée depuis les Grecs jusqu'à maintenant. Et c'est en raison de cela que Maritain, qui est quand même à l'origine beaucoup d'articles de la loi de la Constitution de 1848 sur les droits de l'homme, puisqu'il était présent à la conférence de Mexico et qu'il a remplacé Léon Blum qui était malade et qu'il a proposé un dénominateur commun pratique et pas idéal, et qu'il a été écouté avec grande attention, et donc on a réussi en faveur il s'agissait de reconstruire la paix après la guerre, donc de créer cette Constitution des droits de l'homme. Eh bien, Maritain a accentué le côté pratique. Et c'est son credo que c'est en Occident que finalement l'intelligence est allée le plus loin dans sa capacité d'abstraire. Et c'est au nom de cela, de ce dénominateur commun, et c'est ce paramètre déterminant, qu'on peut passer par-dessus les facteurs conditionnants et qu'il n'y a pas d'incommunicabilité des cultures. Il y a au contraire un dénominateur commun qui est l'homme, qui permet de transcender les cultures différentes et variées. Eh bien, ça, vous le retrouvez dans ce credo de philosophie de la nature qui peut s'appuyer sur quelque chose de déterminé, de constant dans l'histoire, et que les mesures et les recherches scientifiques vont pouvoir enrichir, mais non pas infléchir. C'est, me semble-t-il, quelque chose de très fort qui est lié justement à la corporéité. Parce que ici, nous touchons un lien que nous allons développer, là, vous avez compris, ce premier mois, je pose des jalons de réflexion, entre corps et nature. Qu'est-ce que c'est que le corps, que la nature ? Et pour finir, avant de nous séparer, je voudrais donc conclure sur le rapport du philosophe par rapport à Aristote. Maritain écrit donc dans Les degrés du savoir, la question se pose alors de savoir quelle relation la philosophie peut soutenir, non plus avec les faits, plus ou moins complétés par la raison, mais avec les êtres de raison et les mythes bien fondés de la science. Nous pensons que la philosophie de la nature se doit d'assumer l'apport tout entier des sciences expérimentales, mais si elle peut se fonder sur les faits établis par ces sciences comme sur une matière étrangère qu'elle s'approprie, il est clair qu'elle ne saurait demander à l'être de raison physico-mathématique un moyen d'élucider en elle-même et ontologiquement la nature des choses. C'est d'une autre façon qu'elle doit user de lui, en tant qu'il est un élément de l'image de l'univers élaboré par la science. Car le philosophe de la nature ne peut pas se passer d'une imagerie scientifique, il a besoin de l'image ou du symbole que la science de son temps se fait du monde. Il sait, au surplus, que certaines des entités les plus solennelles qu'elle construit sont des mythes qui proposent à l'esprit le réel masqué. Et il doit lui être reconnaissant de rendre ceci de plus en plus irreprésentable à l'imagination. Le voilà délivré par un remède héroïque de la tentation de se représenter tel un Démocrite ou un Descartes les fibres secrètes de la nature sur le modèle grossier des formes que nos yeux et nos mains peuvent saisir. La science, qui se meut pourtant dans le domaine du sensible et du figurable et qui est amenée par son progrès même non pas à transcender mais plutôt à dissoudre celui-ci, à passer à ce qui n'appartient plus que réductivement au figurable, donne ici au philosophe une grande leçon. Ne devait-il pas comprendre de lui-même que les premiers éléments spatio-temporels du monde des corps, du fait même qu'ils composent les complexes qui tombent naturellement sous nos sens, ne doivent pas ressembler à ces complexes. Le monde qu'ils constituent ne doit ressembler à rien de ce que connaissent nos sens. Il faut, pour y pénétrer, passer un seuil d'ombre et de désarroi pour l'imagination, et à défaut d'une connaissance plus parfaite, les mythes irreprésentables de la science ont du moins le mérite de nous le rappeler.